Dress Code 31, l'émission qui vous dévoile les origines des incontournables de votre dressing.
Jeans, perfecto, Ray-Ban, escarpins, bikini, salopette, robe de mariée, smoking.
Bonjour à tous et bienvenue donc dans Dress Code 31. Aujourd'hui, nous allons vous parler des talons aiguilles et des banilons. Donc ces banilons, ça fait plus de 70 ans qu'ils mettent en valeur donc, les jambes des femmes. Alors nous vous proposons aujourd'hui de retracer une brève histoire de cet accessoire vintage, mais toujours tout aussi glamour. Ainsi, dans les années 20, les fameuses années folles de l'entre-deux-guerres, apparaissent sur le marché parmi les articles de bonnetterie pour dames, des paires de bas destinées à être portées comme sous-vêtements légers sous ces jupes nouvellement raccourcies. Donc à l'époque, le choix est simple. La bourgeoise peut s'offrir une jolie paire de bas de soie naturelle, ce qu'on appelle la fibre DS, chaude et douce, relativement fragile, donc, et surtout fort chère. Et tandis que la femme du peuple doit se contenter de bas de fil ou de rayon, une soie artificielle et grossière, mais qui a le mérite quand même d'être accessible à toutes les petites bourses. Et donc, pour commencer cette émission en musique, on va vous passer la valse des bas noirs, interprétée par Mathé Altéri.
Les bas noirs en disent plus qu'un poème. Et la danse que j'aime, c'est la valse des bas noirs, c'est la valse des bas noirs. Et la danse que j'aime, c'est la valse des bas noirs. Au premier rendez-vous que lui donne Rosette, elle arrête et barou sa langue fut muette. Sa cousine, elle était certes bien moins jolie, oui, mais elle portait les bas de sa folie. Les bas noirs sont les bas que je préfère. Bien des jours, bien des soirs, à mon cœur ils ont supplémenté. Les bas noirs en disent plus qu'un poème. Et la danse que j'aime, c'est la valse des bas noirs, c'est la valse des bas noirs. Et la
alors bonjour à tous, nous allons tout d'abord vous parler du nylon, cette matière révolutionnaire inventée en 1935 par l'américain Wallace Carothers, un chimique de la firme Dupont de Nemours. Cette fibre légère, souple et d'une solidité à toute épreuve allait révolutionner l'univers de la lingerie. Mais avant d'entrer dans la garde-robe des femmes, cette matière synthétique de type polyamide a d'abord été utilisée pour fabriquer des brosses à dents. Il a fallu attendre 1939 pour que soient commercialisés les premiers bas nylons, alors vendus sous le nom de bas en soie synthétique. Bien qu'à l'époque, les bas nylons soient fabriqués uniquement en beige, ils ont rencontré un succès immédiat auprès de la clientèle féminine.
Alors pour la petite histoire, un nylon, donc il s'écrit N-Y-L-O-N, c'est donc un acronyme formé des initiales des prénoms des épouses des chimistes ayant mis au point cette nouvelle matière. Donc comme ça, on a Nancy, Yvonne, Luella, Olivia et Nina, ce qui est quand même très galant de la part de ces messieurs, reconnaissons-le quand même.
Alors, les bas nylon étaient censés ne plus filer et représenter un progrès considérable par rapport au modèle précédent. Le nylon a en effet remplacé la rayonne, une matière semi-opaque qui était une imitation plutôt grossière de la soie. Fin, léger et solide, le nylon a suscité un véritable engouement puisque 64 millions de paires de bas ont été vendues dès la première année aux États-Unis.
Donc un record, voilà, incroyable. Et donc pendant la Seconde Guerre mondiale, les fabricants de bas ont dû faire face à une pénurie de nylon. Donc cette matière étant alors utilisée pour fabriquer des parachutes et des pneus de bombardiers. Donc comme quoi c'est une matière très solide. Hein. Donc les bas sont rares, voire inexistantes donc à l'époque. Et les femmes se teintent les jambes au thé hein, pour faire un petit halle sur les jambes. Et trace au crayon hein, le trait imitant la couture du bas. Donc en 1942, certaines stars hollywoodiennes, telles Betty Grable par exemple, iront même jusqu'à vendre aux enchères à des sommes colossales leurs propres bas nylon afin de reverser les bénéfices récoltés et soutenir l'effort de guerre. Alors ces mêmes américaines voient également la pénurie des bas en soie naturelle parce que celle-ci était importée du Japon. Alors évidemment, c'était un peu difficile les relations avec le Japon à ce moment-là. Mais bien sûr, cela n'a pas remis en cause l'engouement des femmes pour cet accessoire. Et au contraire, hein, dès 1945, les Européennes découvrent à leur tour le bas nylon et bien sûr vont l'adopter immédiatement. Et donc après la guerre, Rodia devient un fournisseur incontournable de fils de nylon et la France devient un leader mondial du bas. Le bas d'origine américaine reste irrégulier alors que les fabricants français revendiquent bien entendu une qualité irréprochable. Et dès 1949, Schiaparelli, Dior et la plupart des grandes maisons de couture vendent des bas. Celle-ci n'est pas un produit jetable. Hein. Des ateliers de remaillage à la main sont partout. Et donc les bas nylon restent donc quand même un produit relativement cher, luxueux, se distinguant entre autres par les finitions décoratives apportées aux talons renforcés. Donc associé au porte-jartel, cet accessoire devient une arme de séduction incontournable. L'invention du bas sans conture, lancée en 61 par Bernard Gieberstein, va le rendre plus confortable. Et donc ce même Bernard Gieberstein, qui est le fondateur de la société des bas dimanches, qui deviendra DIM en 1962. Par la suite, l'arrivée de la mini-jupe fera préférer aux femmes l'apport du collant et le pantalon, bien sûr, va sonner le glas de cet accessoire dans la vie quotidienne. Pourtant, le bas nylon est toujours synonyme de glamour et la mode des accessoires vintage pourrait bien peut-être un jour le remettre au goût du jour. Et donc, si vous voulez bien, on va écouter tout de suite une chanson de Claude Nougaro qui s'appelle « Les bas ».
Les bas, où sont passés les bas? Les bas de femmes, les si beaux bas de soie, qui glissent sur une cuisse de neige. Où sont passés les bas noirs, les bas beige? Où sont passés les bas? C'est les bas, les transparentes peaux qui glissent de haut en bas. Moi le fin ligné, j'ai eu beau les filets, ils ont disparu. J'ai les verres à soie, où j'ai invité mon fusil bouche cousue. Les papas au rhum. Je les ai cherchés dans les prisons dorées. Ils s'étaient fait la paix. Je les ai cherchés à la maison d'arrêt. Des portes jarretelles. Ils apportaient la belle. Oh
suis une seule femme ici-bas qui agrafe ses bas à son slip de dentelle. Hélas, tous les collants se sont rués sur elle. Oh non, tous mes bas, ça, les bas, où sont passés les bas de femme, les si hauts bas de soie. Où sont passés les bas, le pied à bas, des jambes féminines. Où sont passés les bas qui coulent de soie, sur des chevilles fines. C'est pas dévolu à la chair de poule, où est-ce qu'il se plaint. Ne servait-il plus qu'à faire des cagoules, au braqueur de banque, braqueur.
Était vraiment réussi. L'ambiance était excellente. Heureusement, tu sais, j'avais suivi ton conseil. Je portais des bas dimanche sans couture. D'ailleurs, toutes les femmes qui étaient là en portaient aussi. Sauf cette pauvre Danielle qui n'avait pas mis de bas sans couture. Crois-moi, elle n'était pas à son aise. C'est d'autant plus ridicule que les bas dimanche ne sont pas plus chers que les autres. Moi, en tout cas, pour la journée ou pour le soir, je ne porte plus que dimanche sans couture. Quant à Françoise, elle avait mis des bas sans couture et sans talons. Elle était très bien. Et pourtant, elle n'a pas les jambes extraordinaires. Elle aussi avait choisi dimanche sans couture. Je te signale d'ailleurs que les bas dimanche sans couture et sans talons sont garantis. Oh, déjà 11h, il faut que je parte. Au revoir, monsieur.
Comment font-elles, ces Parisiennes, pour être si jolies, si élégantes, si féminines? Quel est donc leur secret?
Mon secret, c'est dimanche sans couture. Si j'achète les bas dimanche, c'est qu'ils sont les plus... Et puis non, non, c'est pas la peine. Vous pouvez repartir. Toutes les femmes savent bien maintenant que le bas dimanche sans couture est celui qui donne l'allure la plus jeune. C'est le cadeau qui leur fait tellement plaisir. Et ça, messieurs, ça n'est plus un secret.
Des dîmes parce que c'est bien et c'est pas cher. Trois collants classiques, 10 francs, dîmes c'est bien et c'est pas cher.
Voilà. Pam 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 pam.
Qui n'a pas en tête ces trois petites notes de musique qui rythment les jeux de jambes signés Dim depuis 1968. C'est l'année où, en France, les collants tels quels remisent au grenier les bas de soie et de nylon. Marie Kant avait déjà lancé la mode 3 ans plus tôt outre-Manche, il était impensable de twister en mini-jupe et en porte-jartelle. D'où l'idée de regrouper slip en bas. Le nom, lui, est emprunté au monde de la danse. Le chorégraphe Roland Petit les avait imposés ainsi que le body aux danseurs. Depuis, ils n'ont cessé de faire tourner les têtes. Pierre Cardin a été le premier à proposer des collants de couleur pour l'hiver et à motif pour l'été. On est passé du collant mousse à l'invisible, puis à celui en élastane et en microfibre. Ils sont devenus gainants et amincissants, modelants ou affinants, le top du top étant depuis les années 1990 l'indétrônable modèle noir opaque de Wolford. Après le règne des collants, la principale motivation des femmes qui portent des bas semble être la volonté de séduction et d'élégance. Dans les années 80, Chantal Thomas crée une collection où les bas et le porte-jartel apparaissent comme sexy. Thierry Mugler, à la même époque, les impose dans ses défilés. Ces derniers seront particulièrement présents les années suivantes lors de l'avènement du porno chic popularisé, notamment par le photographe Helmut Newton. Dans les années 2000, John Galliano pour Dior, pardon, en fait un élément principal d'une collection haute couture. De nos jours, certaines marques comme Gerbe, on dit Gerbe ?
Oui, oui, oui. Okay. Enfin, je pense.
Commercialise encore le traditionnel bas nylon dit bas à diminution, à couture réalisée manuellement avec pointe et talons renforcés tels que celui du milieu du siècle dernier. L'un des rares derniers fabricants français, Servin, s'est placé dans un créneau de luxe et propose, en plus du bas couture, un bas en soie naturelle sans couture depuis l'an 2000. D'autres marques proposent des bas avec couture surpiquée, mais la production européenne de masse est maintenant majoritairement d'origine italienne. Il ne reste en France plus que quelques anciens métiers à tisser capables de fabriquer des bas couture.
Voilà. Alors, juste pour la petite anecdote, hein, vous avez reconnu quand même que le pam pam pam, évidemment, c'était aussi l'indicatif de notre émission où on avait repris ce thème, voilà, hein, qui est en fait le thème d'un film qui s'appelle The Fox, et la musique a été écrite par Lalo Schifrin. Voilà. Alors, actuellement, il existe encore deux types de bas. Donc, ce qu'on appelle le bas classique ou ordinaire, remet des bas à jartelles. Donc, il nécessite un porte-jartelle ou une guêpière hein, ou une jartière pour rester bien tendu. Et puis, il y a aussi donc, ce qu'on appelle les bas autofixants, parfois aussi nommés bas jartières. Ils tiennent seuls en fait en haut de la cuisse au moyen d'une bande de dentelle anti-glisse. En fait, c'est une bande en caoutchouc à l'intérieur ou bien une simple bande élastique hein, qui permet normalement au bas de ne pas glisser sur la jambe. Alors, le type de tissu utilisé pour les bas est également un critère de distinction et d'appellation. Alors après, bien sûr, on a par exemple les barésies, les bras de soie, etc. Voilà. Et l'accessoire, bien sûr, indispensable qui va avec le bas est bien entendu la chaussure à talon aiguille. Alors, avant de parler du talon aiguille, eh bien, on va écouter une petite chanson de Julien Clerc qui s'appelle « La fille au bas nylon ».
Balançant
Le talon aiguille est une forme de talon mince et haut, généralement attribué aux chaussures et aux bottes habituellement portées par les femmes. Il varie originellement entre 2,5 cm et 25, voire plus lorsqu'une semelle compensée est incluse dans la fabrication. À la fin des années 50 et au plus tôt des années 60, la forme de leur pointe conçue par des cordonniers italiens ne dépassait pas 5 cm. Millimètres.
Millimètres, c'est dur.
Et cet accessoire de mode symbolisait l'élégance féminine. Les talons aiguilles modernes sont fabriqués à base d'un plastique moulé et possèdent généralement une tige ou un alliage en métal pour le renfort. Le talon aiguille possède sa propre histoire, démontrée par des dessins fétichistes datant des années 1800 comme un fantasme sexuel.
Et donc l'apparition du talon aiguille va remonter donc aux années 30 et sa conception est attribuée à plusieurs couturiers et fabricants. Les précurseurs des talons aiguilles sont possiblement les chopines qui ont été à l'origine confectionnées pour éviter tout contact avec la saleté du sol et qui sont par la suite devenus un symbole de puissance et de statut social. Puisqu'évidemment, il n'y avait que les gens de la haute noblesse qui pouvaient se payer ce style de chaussures. Et plus tard, les chaussures à semelles compensées à la période d'avant-guerre durant les années 40. Ces chaussures perdent cependant en popularité à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et la réintégration des hommes à la vie civile signifie aussi un retour à la domesticité. Donc, ils vont encourager les femmes à retrouver leur place au foyer. Toutes les femmes ne vont pas en être forcément très heureuses. Mais la mode va remettre en avant donc la féminité et tout ce qui lui est lié, dont le talon aiguille. Et en 1951, le styliste Charles Jourdan décide d'amincir donc le talon de l'escarpin classique et de le rehausser à 8 cm de hauteur, pas moins. Voilà. Donc...
Cependant, il semble indirectement que l'inventeur du talon aiguille soit le styliste André Perugia, qui avait conçu des chaussures aux talons similaires portées par la chanteuse parisienne Miss Tinguette dans les années 40. Les matériaux initialement utilisés pour la conception du talon aiguille impliquaient le bois et le plastique, mais leur résistance était mise à rude épreuve. De ce fait, en 54, le chausseur Roger Vivier, qui travaillait à cette époque pour Christian Dior, eut l'idée d'insérer une tige en métal dans le talon afin de le rendre plus résistant. Cette technique remplace rapidement le talon en bois, conçu à partir d'un talon Louis XV effilé vers le bas. Le talon aiguille termine la silhouette d'un coup de crayon, selon Vivier. Ce talon effilé n'est qu'une des nombreuses créations de Roger Vivier qui a durablement laissé son empreinte dans le monde de la chaussure. On lui doit en effet l'invention du talon mini, cambré ou virgule, sans oublier le célèbre escarpin verni à boucles dessiné pour Yves Saint Laurent en 65 et les fameuses cuissardes de Brigitte Bardot sur sa Harley Davidson.
Ah oui, on s'en rappelle de Brigitte Bardot. Et donc, leur conception donc mise au point, les talons aiguilles vont se populariser et se médiatisent à grande échelle durant les années 50 et 60. Leur existence est pourtant pour la première fois dévoilée dans le magazine américain Daily Telegram le 10 septembre 1953 sous le terme de stiletto. En fait, c'est pour sa ressemblance avec le poignard stylé du même nom dont le talon imite le profil effilé. Cependant, le mot stiletto appliqué à la chaussure féminine est quand même connu depuis les années 30. L'italien Salvatore Ferragamo, chausseur des stars d'Hollywood, retravaille le talon aiguille qui prend encore de la hauteur. Et des talons de 12 cm font leur apparition. Et des vedettes américaines telles que Gina Lollobrigida, qui n'est pas du tout américaine d'ailleurs, Ava Gardner ou Marilyn Monroe, adoptent ce type de talons et ont également contribué bien sûr à sa popularisation. Et Marilyn Monroe disait « Avec le talon aiguille, une femme peut dominer le monde hein, ». Donc, phrase qui est devenue célèbre avec elle. Voilà. Donc, maintenant, on a encore le temps d'écouter une petite chanson. Et donc, on va écouter « À cause des garçons ». Bon, voilà, comme on n'a plus beaucoup de temps, on ne va pas vous mettre la chanson en entier. Donc, voilà, Sophie, je te redonne la parole.
Alors, on finit sur les talons aiguilles. Hein. Donc, le port des talons aiguilles ne va pas sans quelques controverses et critiques négatives dans les années 60. Pour certaines féministes, ce type de talon indiquait un stéréotype sexuel et dominateur pour les hommes envers les femmes, ainsi qu'un objet de fantasme. Bien qu'ils attribuent une silhouette plus fine et élancée à celles qui les portent, le port de talons aiguilles dans certains lieux publics était interdit car il causait de nombreuses marques sur le sol. De plus, les talons aiguilles sont considérés comme une icône fétichiste car ils représentent un aspect chic et dominateur attribué aux femmes fatales et aux dominatrices. Mais il est vrai que les talons donnent l'illusion optique d'une jambe plus longue et plus mince, ainsi que d'un petit pied et une plus grande hauteur. Ils modifient également la posture, la démarche, la flexion des muscles du mollet. Ils font aussi un buste et des fesses plus proéminentes. A noter qu'il existe un concours dans lequel des femmes ou jeunes filles doivent faire la course en talons aiguilles, nommée Stiletto Race. Le magazine Glamour sponsorise ce type de course en Allemagne et ces courses prennent place dans le monde entier.
C'est vrai que ça ne doit pas être facile de galoper avec, sur des talons aiguilles de 15 ou 18 cm. Hein. Alors, d'ailleurs, il y a des femmes... Alors, je ne sais plus, j'ai trouvé cette phrase-là, mais je ne sais pas qui l'a dite. C'est-à-dire que c'est un couturier hein, qui a dit ça. Les femmes préfèrent aller en enfer en talons hauts plutôt qu'au paradis en talons plats. Bon, c'est peut-être un peu exagéré. Je pense que toutes les femmes n'en sont pas là. Alors, Charles Joudan, bien sûr, lui, a démocratisé les talons hauts. Donc, il arrive, que ce soit sur des bottes, sur des boots, même sur des sandales. Et si la mode passe avec les années 70, ils reviennent en force, en fait, dans les années 90, notamment quand les héroïnes de Sex and the City ne jurent que par leur mule haute signée Manolo Blahnik. Voilà. Alors donc dès lors, hein, le nom du créateur hein, entre dans le langage courant et on se doit de dire
mais
Manolo, voilà, mais Jimmy Choo, mais Louboutin. Vous savez les Louboutins, c'est ces chaussures avec les fameuses semelles rouges qui à l'origine en fait étaient peintes à la main avec du vernis à ongles, voilà. Donc voilà, s'il fallait peindre toutes les chaussures comme ça, donc bon maintenant c'est fait de façon
bonne idée
industrielle. Et donc, eh bien, on va finir notre émission sur le générique, si vous voulez, de Sex and the City.
Thank you.
Eh bien voilà, donc au revoir à tous et à la prochaine émission alors.
À bientôt dans Dress Code.